Et voici le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. On profite de la journée mondiale du recyclage aujourd'hui pour s'intéresser à ses limites environnementales et techniques. La France produit 310 millions de tonnes de déchets par an, dont à peu près la moitié sont recyclés, principalement le verre, le carton et certains métaux, textiles et plastiques le sont assez peu en revanche. Avec la législation et les avancées technologiques, cela s'améliore selon l'agence environnementale, l'ADEME. Mais les ONG qui traitent du sujet sont plus sceptiques car même si recycler est préférable à l'enfouissement ou à l'incinération des déchets, tout n'est pas valorisable et le meilleur déchet reste celui qu'on ne produit pas. C'est le décryptage éco d'Annabelle Grelier.
On ne récupère pas tout ce qu'on produit et on ne recycle pas tout ce qu'on collecte. Exemple pour le plastique, 3,5 millions de tonnes de déchets par an pour un taux de recyclage faible d'environ 25%. Cela devrait s'améliorer, estime l'ADEME dans son dernier rapport. En effet, la nouvelle législation européenne prévoit en 2025 l'incorporation à minima de 25% de matières recyclées dans tous les nouveaux produits. Dopées par cette nouvelle demande, les filières de recyclage ont investi 656 millions d'euros en 2022. Sylvain Weserman, président de l'ADEME.
Toute la filière s'organise, c'est pour ça qu'on voit dans notre rapport des tendances où la collecte de plastique augmente. C'est-à-dire qu'on a un besoin de collecte qui augmente en vue de ses débouchés à venir l'an prochain. Les centres de tri se sont énormément modernisés. Il y a eu beaucoup d'investissements. L'ADEME a accompagné ces investissements qui ont été à peu près bouclés début 2023. Il faut bien voir qu'un centre de tri à l'ancienne, c'était à peu près 15 000 tonnes par an. Aujourd'hui, on est plutôt sur des capacités de 60 000 tonnes avec des machines de tri, notamment optiques, qui permettent en fait d'avoir plus de qualité de tri pour augmenter notamment la part de plastique qu'on arrive à recycler.
Le recyclage progresse en France, mais l'évolution des filières tient plus aux fluctuations du marché ou à la réglementation que à la protection de l'environnement, Annabelle.
Pour les métaux, par exemple, parce qu'ils ont une valeur sur le marché, la France est le plus gros exportateur en Europe de déchets métalliques, alors qu'elle aurait tout intérêt stratégiquement, face à la pénurie mondiale, à les conserver et les recycler pour les réincorporer. Autre exemple, le plastique. On exporte encore 340 000 tonnes par an de déchets peu valorisables, pas vers la Chine, elle n'en veut plus depuis 2018, et un règlement européen les limite à l'OCDE. Alors ils finissent, bien souvent, en Turquie, où ils sont incinérés. Mais le plastique, on en importe aussi, notamment pour pallier la pénurie de déchets de bouteilles. PET avec la baisse de la consommation en France. Ce qui fait dire à Juliette Franquet, la directrice de Zero Waste France, que le recyclage peut être un piège.
Ce qui nous dérange aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup trop de recyclage, qu'il y a des orientations de subventions publiques vers le recyclage, qu'il y a beaucoup d'innovations et d'acteurs privés qui vont vers le recyclage. Et c'est très bien, il en faut, mais les financements du recyclage sont disproportionnés par rapport à la place que ça devrait avoir dans toute la prévention et la gestion des déchets. Donc, c'est un peu un cercle vicieux, en fait, de continuer à investir dans des industries de traitement des déchets. Ces usines, elles risquent de ne pas être rentables parce qu'elles n'ont pas assez de déchets. Donc, c'est un peu schizophrénique. Et surtout, ça ne casse pas un mécanisme de surproduction alors qu'il y a certaines choses qui sont en train de se développer aujourd'hui. Par exemple, les bouteilles en verre qu'on peut réemployer, par exemple, les dons de vêtements, par exemple, la réparation des téléphones portables. Et que pour nous, c'est ces filières-là qui sont plus importantes que le recyclage. Et ce n'est pas seulement pour nous, c'est ce que dit la loi française et européenne.
Pour structurer les filières de recyclage, l'État a considérablement renforcé son dispositif de soutien. 500 millions d'euros dans le cadre du plan France Relance en 2020-2022. Le fonds économie circulaire a lui quasiment doublé, passant à 300 millions d'euros pour 2023-2024.
Annabelle Grelier, on retrouve votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture. Et puis votre chronique demain l'Écho dans le journal de 18h s'intéressera au recyclage du plastique agricole. En Espagne, la crise agricole justement est toujours en cours. Plusieurs centaines d'agriculteurs ont à nouveau manifesté dans le centre de Madrid hier pour dénoncer les difficultés du secteur et les contraintes administratives et environnementales auxquelles est confrontée la profession selon eux. Bruxelles a pourtant proposé vendredi des révisions législatives pour alléger drastiquement les règles environnementales de la politique agricole commune, assouplissement critiqué par les défenseurs de l'environnement. Rejeter le CETA, le traité commercial entre le Canada et l'Union européenne, serait néfaste pour nos agriculteurs français. C'est ce que pense le ministre français du Commerce extérieur, Franck Riester. Alors que les sénateurs doivent se prononcer cette semaine sur le sujet, le ministre souligne que, en 6 ans, les exportations françaises vers le Canada ont bondi de 33%, alors que le bœuf canadien est très loin d'avoir envahi l'Europe. Et puis le ministre de l'économie veut en finir avec l'État-providence pour passer à un État protecteur. Bruno Le Maire s'en explique dans une interview au journal du dimanche à l'occasion de la sortie de son nouveau livre intitulé « La voix française aux allures de programme présidentiel » où il n'exclut pas de resserrer encore les conditions de l'assurance chômage. Enfin, où l'on reparle du Crédit Suisse, la deuxième banque de Suisse rachetée en catastrophe par sa rivale UBS il y a près d'un an. Selon l'hebdomadaire Sonntag Zeitung qui s'appuie sur le rapport des avocats d'UBS, le Crédit Suisse a versé chaque année environ 1 million de francs suisses à chacun de ses 1557 gestionnaires de risque sur cette période. Et ce, malgré l'état catastrophique des finances de la banque, cette dernière continuait de verser des dividendes, même sans bénéfice. Et puis pour financer tout cela, le Crédit Suisse a procédé à des montages financiers parfois très risqués, le tout sans qu'on sache jusqu'à aujourd'hui si c'était bien légal.